Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, tout pile. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Finet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les orages ont fait un mort cette nuit. Une femme de 57 ans, victime d'une coulée de boue dans l'Aisne, des dégâts dans le vignoble en Bourgogne et une trentaine d'avions déroutés hier soir en région parisienne. Les agriculteurs à l'Elysée. Emmanuel Macron reçoit ce matin les syndicats du monde agricole. Il l'avait promis après la crise. Et puis Paris. Après Paris, battu 1-0 hier soir à Dortmund en Ligue des Champions. C'est au tour de Marseille ce soir face à l'Atalanta Bergame. Demi-finale aller de Ligue Europa au Vélodrome.
Et puis, notez mon invité à 8h30. Ce sera Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Il s'était fait un peu oublier. Il revient parce qu'il y a des bonnes nouvelles, vous allez l'entendre, sur le front de l'économie française. Les orages ont donc fait une victime cette nuit.
Oui, on vient de l'apprendre. Et Romain Houck, vous allez nous donner des précisions pour RMC. C'est donc une femme de 57 ans qui est morte dans l'Aisne à Courmelles. C'est près de Soissons, victime d'une coulée de boue.
Oui, mais le phénomène s'est produit cette nuit aux alentours de minuit. Un événement intense et très localisé de pluie qui a engendré un ruissellement et une coulée de boue sur la commune. L'eau a dévalé depuis des terrains agricoles et des champs avant de s'engouffrer dans un secteur où se trouve une dizaine d'habitations. L'eau s'est particulièrement accumulée dans une maison. Selon le maire de cette commune, il y en avait 1,50 m à l'intérieur, ce qui a provoqué l'effondrement de la façade et emporté cette femme de 57 ans dont le corps a été retrouvé une heure plus tard. Son mari, qui se trouvait également à l'intérieur, est parvenu à s'extirper, mais il souffre de contusions à la tête. Plus de 50 sapeurs-pompiers ont été déployés pour cette intervention. La mairie a déclenché son plan communal de sauvegarde et a mis en place un centre pour accueillir les personnes sinistrées.
Les orages qui ont été violents, des dégâts recensés aussi dans le vignoble en Bourgogne, une trentaine de vol carrément dérouté des aéroports de région parisienne hier soir. 22 000 éclairs en tout et l'image impressionnante de la foudre qui s'abat sur le paratonnerre de la Tour Eiffel à Paris. Il est 8h02 sur RMC et c'est à 10h ce matin qu'Emmanuel Macron va recevoir à l'Elysée les représentants des syndicats agricoles. Comme il l'avait promis, le rendez-vous avait été repoussé. Il aura bien lieu donc ce matin pour tenter de mettre un point final à cette crise. Vous vous souvenez des nombreuses annonces, notamment au moment du salon. Le versement des aides européennes promis avant le 15 mars, l'abandon de la hausse de la taxe sur le carburant des tracteurs. Malgré tout ça, le malaise persiste, nous dit Caroline Philippe, qui a rencontré pour RMC des agriculteurs qui, au moment de la crise, avaient bloqué l'autoroute A1 dans l'Oise.
Des tonnes de pommes de terre bio.
Vous avez des petits sacs.
Mais leur vente ne suffit pas à renflouer la trésorerie de Xavier Piau.
Mes comptes en banque sont à moins 50 000 euros et aujourd'hui, j'ai plus de quoi payer mes fournisseurs.
Cet agriculteur attend 90 000 euros d'aide de la PAC depuis le 15 mars, comme promis par le gouvernement.
Ce que l'administration nous annonce, c'est au mieux pour fin du mois de juin. On a la chance d'avoir des banques qui décalent de mois en mois les dates d'échéance, mais ils nous font payer et aujourd'hui, les intérêts sont à 6 %.
À tel point que Xavier, comme beaucoup d'agriculteurs dans l'Oise, pense à se remobiliser.
Pour l'instant, on ne voit pas le changement de modèle.
Au milieu de son champ de colza, Vincent Boucher, céréalier et responsable local de la FNSEA, s'agace.
On demande simplement de vivre de ce qu'on vend. Si je cède à mes enfants, je ne vois pas de perspective. À plus de 7 ans, 10 ans, comme il n'y a pas de projet à long terme pour la France par rapport au milieu agricole, moi je ne préfère pas que mes enfants s'installent. Ça serait aller devant un mur et ça je ne peux pas le supporter. Et si on est révolté, c'est parce que l'agriculture est réellement en faillite.
Pour l'instant, le projet de loi agricole ne les rassure pas tant que le texte n'est pas voté et les décrets d'application pris. Ces agriculteurs restent sceptiques.
C'est une information RMC. Encore un appel à la grève à la SNCF, cette fois en Île-de-France. Uniquement en Île-de-France. Pour la journée du mardi 21 mai, les syndicats demandent de meilleures primes pour travailler pendant les JO. Tout ça dans un contexte général d'économie, la chasse aux économies, 20 milliards d'euros pour cette année, c'est la mission ça du ministre Bruno Le Maire, qui est l'invité ce matin de RMC à 8h30. Bruno Le Maire, appelé à l'aide par les salariés de l'usine Emma France à Aulnay-sous-Bois, sous-traitant de Stellantis, le site jugé pas assez rentable. Les salariés redoutent une délocalisation de la production. 400 emplois sont en jeu. Les salariés qui occupent l'usine depuis 2 semaines maintenant, nous dit Alfred Orange sur place pour RMC.
Dans cette usine vaste comme un aéroport, plus rien ne tourne. Au milieu du parking, assis sur une chaise, Noël, agent qualité, pose le diagnostic.
Ils nous ont annoncé un cancer sans traitement, malheureusement, mais c'est à nous de choisir de mourir dignement.
Parce que ce risque de délocalisation touche directement la fierté de ces 400 salariés marqués au corps par leur métier. Yves est chef de ligne.
On est sur la ferraille, donc on peut se blesser à tout moment. On a des frères qui ont des dos qui sont cassés, qui sont des dos en compote. On a donné, il est savent. On faisait en sorte que le travail, la qualité française reste là. C'est une trahison.
Du savoir-faire français que Stellantis ne juge plus assez compétitif et veut à terme déplacer en Turquie. Pour Abdel, élu CGT chez MA France, il faut que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, intervienne.
On aimerait avoir un geste de bonne volonté ou une preuve de bonne volonté. Comme participer aux négociations ou je pense qu'il a des réseaux de communication qui lui permettent d'accéder à ce genre de personnes.
Si la négociation n'aboutit pas, les syndicats de MA France militent aussi pour que chaque salarié ait droit à une prime de départ et des garanties de reclassement.
Première nuit sous couvre-feu à Nice, la cinquième ville de France, où depuis hier soir, au nom de la lutte contre la délinquance, les mineurs de moins de 13 ans n'ont plus le droit d'être dans la rue entre 23h et 6h du matin dans plusieurs quartiers, y compris le centre-ville. C'est même les mineurs de moins de 16 ans dans le quartier des Moulins. La lutte contre la délinquance donc, mais c'est pas si facile que ça à appliquer. C'est ce que dit ce matin sur RMC Laurent Alcaraz du syndicat de police Alliance dans le Sud-Est.
On va avoir affaire aux mineurs français, donc là il y aura aucune difficulté de prise en charge par les forces de police. On arrive à établir l'identité, appeler les parents, on vient les récupérer au commissariat. La deuxième va être la problématique des mineurs non accompagnés, étrangers en situation clandestine. Cela, ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir établir l'âge, la nationalité, les mettre dans des structures départementales. Alors, quid de savoir est-ce qu'il y aura assez de place? Et surtout, ces structures, elles sont dites ouvertes, donc le mineur peut à n'importe quel moment s'échapper et retrouver un nouveau point de trafic de stupéfiants.
Il est 8h06, 5 jours de stress à venir pour les supporters du Paris Saint-Germain. Le PSG, imprécis, est battu 1-0 à Dortmund hier soir en demi-finale de Ligue des Champions. C'était le match aller. Il y a encore le match retour mardi prochain, donc à Paris. Et l'entraîneur parisien Luis Enrique promet un autre visage de son équipe.
Ce sera la première fois qu'on recevra lors du match retour. On n'a plus rien à perdre. On va donc tout donner pour gagner ce match. Maintenant, il faut récupérer et nous améliorer. Mais je le répète, j'aurais signé avant la rencontre si on m'avait dit qu'on aurait eu autant d'occasions. Il faudrait être plus efficace.
Et place à Marseille ce soir à 21h contre l'Atalanta Bergame en demi-finale de Ligue Europa. Là aussi, c'est le match aller. Au stade Vélodrome, plein à ras-bord ce soir pour défier les Italiens, Florent Germain.
Oui, c'est ce que Pablo Longoria, le président de l'OM, a appelé l'enfer du Vélodrome dans une interview accordée justement à la Gazzetta dello Sport. L'ambiance et la passion des supporters marseillais, ce sera l'atout numéro un de l'OM, reconnaît l'entraîneur Jean-Louis Gasset.
C'est pas qu'un club, c'est une ville entière qui joue une demi-finale de Coupe d'Europe. Voilà ce que je ressens. On peut pas se promener sans que les gens nous parlent de ça.
Les supporters marseillais le savent, au cœur d'une saison compliquée, ce sont les fans de l'OM qui ont poussé les joueurs à se transcender.
On voit qu'en Europe, il y a l'ADN Europe et évidemment que sans le Vélodrome, c'était cuit.
Le Vélodrome, il va péter, ils savent qu'on sera là et il faut surtout pas encaisser de but, il faut en mettre un maximum.
C'est vrai, c'est toujours au Vélodrome que l'OM a fait la différence en Coupe d'Europe pour être aujourd'hui en demi-finale. Le défenseur Jonathan Clauss espère que les Italiens de l'Atalanta Bergame seront impressionnés.
Une ambiance comme ça, c'est extrêmement rare. Comme vous l'avez dit, ça peut impressionner et ça peut perturber l'adversaire et c'est un atout qu'il va falloir utiliser.
Attention quand même, l'Atalanta sait supporter les ambiances chaudes. Les Italiens avaient gagné 3-0 au match aller à Liverpool lors du tour précédent.
Et l'autre demi-finale ce soir dans cette compétition entre la Roma et Leverkusen. Évidemment, soirée spéciale sur RMC à partir de 18h, le match à 21h, suivi de l'after et de la libre antenne jusqu'à 1h du matin.
C'était le journal de Quentin Vinet. Tiens, un mot pour vous signaler que lundi prochain, lundi matin, nous lancerons un nouveau rendez-vous, le face-à-face. Et vous? Oui, le face-à-face et vous sur RMC et BFM TV pendant près d'une heure, de 8h10 à 9h, des personnalités politiques de premier plan qui viendront répondre non seulement à mes questions, mais surtout aux vôtres pour les interpeller le plus directement possible. Et on inaugure cet exercice avec Marine Le Pen. Marine Le Pen qui sera donc mon invitée pour un événement exceptionnel lundi matin. Vous pouvez dès à présent poser vos questions à la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, favorite de tous les sondages pour les élections. Face à elle pour les élections de 2027. Les sondages la donnent gagnante. Venez donc l'interpeller, Marine Le Pen. Vous nous appelez directement au 3216 ou vous envoyez vos questions@rmc.fr ou alors vous flashez le code que vous voyez sur vos écrans en bas à droite sur RMC Story. Rendez-vous pris donc pour lundi matin, 8h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Casse-toi. casse-toi. Voilà le cri lancé à Raphaël Glucksmann, le candidat socialiste, hier dans les cortèges de la manifestation du 1er mai. Il accuse des militants LFI et des militants pro-palestiniens de cette violence. Violence en politique. Aujourd'hui, justement, à Sciences Po Paris, la direction de l'école, les professeurs et les étudiants vont tenter de renouer une forme de dialogue sur toutes ces questions. L'un de ces professeurs de Sciences Po, justement, Martial Foucault, est mon invité en direct dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Et on va tout de suite regarder vos messages, vos réactions sur Direct Studio. Je vous rappelle que Bruno Le Maire est l'invité du face-à-face dans 20 minutes maintenant sur RMC et BFM TV. Le ministre de l'économie qui cherche des milliards d'euros d'économie. Et depuis ce matin, ça vous fait réagir. Il y a Gérald qui nous écrit: il faut 3 mesures urgentes, réduire les aides sociales, lutter contre la fraude fiscale et taxer les super profits. Avec ces 3 leviers, je suis sûr qu'on trouvera largement les économies nécessaires. Jean-Christophe, il nous dit bonjour à tous, bonjour à Pauline. Comment trouver des milliards? Eh bien, c'est très simple. En France, nous avons 1 million de fonctionnaires de plus que l'Allemagne. Et pourtant, l'Allemagne n'est pas un pays sous-administré où rien ne fonctionne. Il y a donc clairement des économies à faire sur le nombre de fonctionnaires, estime Jean-Christophe. Et puis Christine nous dit: moi, j'ai longtemps travaillé dans un conseil régional et clairement, là aussi, il y a beaucoup d'économies à faire du côté des collectivités, entre les mairies, les agglos, les départements, les régions. Il y a énormément de doublons qu'il faudrait supprimer, mais les ministres ont toujours eu peur de fâcher les petits élus locaux. Voilà ce que pense Christine. Vous aussi, vous avez des pistes d'économie, des questions pour Bruno Le Maire. Ça se passe au 32-16.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h13 et vous êtes bien sur RMC.
Le parti pris.
Le parti pris, c'est avec vous, Martial Foucault. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes professeur à Sciences Po Paris. Vous êtes auteur du livre Une jeunesse engagée, justement aux éditions des presses de Sciences Po. C'est une enquête sur les étudiants de Sciences Po. Sciences Po Paris, où une grande réunion se tient tout à l'heure, à 10h, avec à la fois des professeurs, des élèves, la direction. Et évidemment, après ce qu'il s'est passé en fin de semaine dernière avec l'école qui a été bloquée sur certains campus, qui a dû finalement être évacuée une première fois, puis évacuée par les étudiants eux-mêmes après la promesse justement de la tenue de ce grand débat sur la situation à Gaza qui divise profondément l'institution. Votre parti pris ce matin, c'est de dire que vous espérez que ça puisse apaiser les choses. Ils sont dans quel état d'esprit, ces étudiants que vous avez justement étudiés?
Alors, on a étudié ces étudiants avant les événements que vous venez de rappeler. Il est vrai qu'on a souhaité regarder en 20 ans, le temps d'une génération, comment nos étudiants étaient positionnés politiquement, quelles étaient les valeurs qui pouvaient conduire certains d'entre eux à peut-être s'engager davantage que d'autres. Et il ressortait deux traits très singuliers. Tout d'abord, en l'espace de 20 ans, on a pu observer qu'il y avait une forme de radicalité politique plus grande que leurs aînés, et qui concerne une minorité d'entre eux, j'insiste là-dessus. Et puis un deuxième phénomène, qui est peut-être pas celui sur lequel on a beaucoup insisté ces derniers jours, c'est que malgré un certain nombre de contestations, de mobilisations des étudiants très sensibles à la question des discriminations, à la question des inégalités, ils restent, contrairement à d'autres jeunes engagés dans des mouvements politiques, les étudiants de Sciences Po restent viscéralement attachés aux institutions. Et c'est, je crois que c'est très important parce qu'ils ne voient pas le changement en dehors d'un cadre institutionnel.
Vous êtes prof là-bas, vous les observez. Martial Foucault, d'abord un point, parce que vous avez insisté sur le fait que c'était une minorité. Est-ce qu'on a une idée du nombre? C'est-à-dire, par exemple, pour la Sorbonne, le lendemain du blocage de Sciences Po, la Sorbonne elle-même estime qu'il y avait une cinquantaine d'étudiants de la Sorbonne qui souhaitaient bloquer la Sorbonne. Et je redonne le chiffre global, il y a 55 000 étudiants à la Sorbonne. Donc 55 000 étudiants et 50 qui bloquaient. À la Sorbonne, c'est quoi, à Sciences Po, c'est quoi le ratio?
Alors, il faut être très prudent, mais disons que c'est un chiffre qui se situe entre 100 et 200 étudiants qui ont pris part aux événements, à la fois blocage sur le
100
campus.
100 à 200, et je rappelle qu'il y a
sur 15 000 étudiants.
15 000 étudiants, ouais. Donc c'est effectivement une très petite minorité, en fait.
Absolument. Alors, c'est selon la formule qui faut discutable, mais est-ce que c'est une minorité agissante? Est-ce qu'il y aurait une majorité silencieuse? Il n'empêche que tous les étudiants peuvent, pour certains, se retrouver dans un certain nombre de positions, la condamnation de l'action militaire à Gaza, sans forcément prendre part aux événements de blocage qui ont effectivement aussi choqué un certain nombre d'étudiants.
qui ont aussi choqué un certain nombre d'étudiants. Est-ce que vous vous dites qu'aujourd'hui, les étudiants vont pouvoir se parler? C'est-à-dire qu'il y a ces étudiants-là, entre 100 et 200, comme vous dites, qui seront présents aujourd'hui. Hein, tous les collectifs qui avaient agi pour le blocage de l'école seront représentés dans cette fameuse réunion de dialogue tout à l'heure à 10h. Mais les étudiants qui, eux, avaient eu difficulté à pouvoir accéder au campus, qui sont les étudiants des associations juives de Sciences Po, seront présents également. Est-ce que vous dites qu'ils vont pouvoir se parler tous?
Je l'espère fortement, parce que au fond, d'ailleurs c'est très curieux d'arriver à ces situations, parce qu'il me semble que le dialogue n'a jamais été totalement rompu. Il y a des espaces de liberté, des espaces d'expression. Est-ce qu'il faut attendre véritablement des blocages pour mettre autour de la table l'ensemble, à la fois des associations étudiants, mais aussi la communauté des enseignants, des vacataires, de la direction de Sciences Po, pour définir quelles doivent être les conditions d'expression? Aujourd'hui, je suis frappé de voir que tout est réuni pour que ces étudiants puissent s'exprimer, mais il y a des limites à cette expression. Donc, le dialogue,
qu'est-ce
qui ressortira ce matin?
C'est-à-dire que quand vous regardez hier ce qui s'est passé dans les rangs des manifestations du 1er mai avec Raphaël Glucksmann, il était à Saint-Étienne, le candidat socialiste, et il a été rejeté violemment au cri de « casse-toi » par ce que lui estime être des militants LFI et des militants pro-palestiniens. Des drapeaux d'ailleurs palestiniens étaient brandis par un certain nombre de personnalités qui l'ont rejeté de ces rangs de la manifestation. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement c'est un refus de dialogue? Ils n'ont même pas pu, tout simplement, alors que Raphaël Glucksmann est un homme de gauche, candidat du Parti Socialiste, il n'a même pas pu tout simplement battre le pavé avec les autres.
Oui, mais je crois que vous avez raison. C'est-à-dire, au fond, c'est à la fois le reflet de cette montée d'une polarisation dans le débat public, c'est-à-dire la grande difficulté pour des idées contraires, opposées, à pouvoir s'exprimer et s'opposer, j'allais dire, démocratiquement et pacifiquement. Ça, c'est la première chose. Et d'une certaine manière, on retrouve cet élément-là à Sciences Po, dans cette grande difficulté, cette confrontation, j'allais dire, d'une minorité, mais très agissante et mais non violente. J'insiste là-dessus. Et puis, c'est un deuxième reflet. Ce que vous dites est intéressant. C'est-à-dire, est-ce que la violence en politique est un phénomène nouveau en France? On semble découvrir qu'aujourd'hui, il y a cette, incapacité.
Mais vous avez l'air presque de minimiser, comme si bon, c'est comme ça, ça a toujours existé. Bon, enfin, je veux dire, j'imagine que pour les candidats qui se retrouvaient comme Raphaël Glucksmann, violemment repoussés, c'est pas très agréable. Vous avez beau leur dire, écoutez, c'est l'histoire de France. La violence est là, quand même.
Je vais préciser, je trouve ça tout à fait inacceptable sur le plan démocratique. Pour quelle raison un candidat ou une, peu importe d'ailleurs, le candidat et sa famille politique ne puissent pas être présents dans un cortège symbolique du 1er mai? En revanche, je pense qu'on a peut-être tort de considérer que en 2024, on serait dans un moment de crispation politique
plus,
avec
plus particulier
une violence historique.
Si vous prenez ce recul.
Rappelons-nous ce qui se passait dans l'entre-deux-guerres. C'était autrement plus violent. Toutefois, aujourd'hui, je crois que on voit bien que
quand
le débat,
quand on se rappelle que c'était dans l'entre-deux-guerres,
politique...
c'est vrai que c'est pas très rassurant du coup, parce qu'on se dit que ça s'est assez mal terminé quand même. Donc on peut espérer que les choses vont s'apaiser davantage.
mais vous voyez, c'est un sujet sur lequel, au fait, nos étudiants à Sciences Po en particulier n'ont peut-être pas toujours cette histoire de la manière.
Ouais, mais alors moi j'ai envie de vous dire, si les étudiants de Sciences Po, eux, ne se souviennent pas de cette histoire-là, honnêtement, je ne sais pas très bien qui s'en souvient, parce que ça fait partie quand même normalement des basiques d'un étudiant qui étudie les sciences politiques, qui étudie l'histoire à Sciences Po. En tout cas, l'excuse de la mémoire courte me paraît difficile à accepter. Mais en tout cas, merci pour vos analyses. Martial Foucault, je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po, que vous avez mené cette enquête qui fait référence, Une jeunesse engagée, c'est justement aux éditions Les Presses de Sciences Po, et cette réunion qui se tiendra donc aujourd'hui à 10h à l'École parisienne, il est 8h20.
RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours qu'Arnaud Demanche est avec nous, 8h21.
Bonjour à tous, nous sommes le 2 mai. Hier, c'était donc la fête du travail. Et à la fête du travail, on fait pas de travail.
ce qui est curieux.
Enfin, bah si, dire, nous, on a travaillé, nous, quand même.
La fête du travail, on
les
travaille.
Les gens, d'une manière générale, ne font pas de travail à la fête du travail. Ce qui est curieux, je veux dire, si on faisait la fête de la bière sans la bière,
c'est vrai.
Ce serait moins bien.
Moins bien.
À Munich, il ferait la Oktoberfest avec des grands verres d'eau. Ah, Gunther, fais péter la Vichy Célestin. En même temps, bon, Vichy, pour les Allemands, c'était aussi un peu la fête. Alors, tant qu'on parle de fête et d'Allemagne, hier soir, le PSG jouait contre Dortmund en Ligue des Champions. Luis Enrique a fait une grande causerie dans le vestiaire pour préparer cette demi-finale. Il a dit aux joueurs, alors, une demi-finale, vous savez pas forcément ce que c'est, hein, vous êtes le PSG, je vais vous expliquer. Oh, je plaisante, Charles. Charles, je sais que vous êtes forcément un peu agacé ce matin par la défaite du PSG. Faut voir, il est allé dessiner une grosse moustache sur le poster d'Angela Merkel qui est dans le bureau des
Et ça, c'était vraiment la grosse colère.
Colère. Pour préparer le match retour, là, il a appris à dire, Gib nicht so viel an, Verlierer. Wir werden im Rückspiel mit deinen großen Schwanzen wackeln. Voilà ce qu'il a appris.
C'est pareil. C'est
ça, toi,
Charles.
Ça veut dire, mais pas trop les losers, on va vous secouer vos grosses daronnes au match retour en allemand. Voilà.
Arnaud, un rapport appelle à interdire les écrans aux enfants de moins de 3 ans.
Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Ouais. Dites-moi.
Je me souvenais que vous aimiez bien. Donc les gens qui étudient la question dans les bureaux disent qu'il faut interdire les écrans aux enfants. Après... Fais-les travailler dans un train avec 12 gamins, ils seront pour les écrans pour les enfants. C'est marrant de faire une étude là-dessus d'ailleurs, parce qu'on sait que c'est pas bon. Enfin, je veux dire, c'est comme faire une étude. Faut-il donner de la cocaïne aux enfants? Normalement, instinctivement, t'as la réponse. Alors, cette mesure va-t-elle être appliquée? On sait que les scientifiques, c'est typiquement les gens que Macron écoute, toujours. Ah, je suis un peu de mauvaise foi. Il les écoute, c'est juste qu'il préfère faire autrement parce que lui, il sait mieux. Mais c'est vrai qu'on peut être vite tenté de donner un écran à un enfant pour le calmer. D'ailleurs, si vous m'écoutez, les enfants, des fois, papa et maman peuvent plus vous supporter. Les enfants, vous êtes pénibles. Alors, plutôt que de vous abandonner dans une forêt, ils préfèrent vous abrutir avec un iPad. Et voilà, faut choisir. Vous préférez être sage ou vous préférez que papa et maman vous rendent débiles pour avoir la paix? C'est votre responsabilité à un moment. Ceci dit, il y a des parents qui abusent. Ils donnent un téléphone à des enfants. Tiens, regarde les téléphones, regarde les téléphones. Oh là là, le gamin, il est trop agité. Donne-lui un téléphone. Et après, quand ils sont ados, mais passe pas tout ton temps sur ce téléphone! Lutter contre la dépendance aux écrans, est-ce que c'est pas trop tard d'ailleurs? Je veux dire, on est tous drogués, on les adultes, oui. Tout le monde. Regarde les gens qui te demandent un cap d'iPhone, on dirait qu'ils te demandent une dose d'héroïne. T'as pas un cap d'iPhone? J'ai plus de batterie. T'as pas un cap d'iPhone? On est toxico, voilà le problème. D'ailleurs, Emmanuel Macron souhaite que les jeunes lisent entre 15 et 30 minutes par jour. C'est ça la tendance en ce moment dans son parti, c'est la recherche des lecteurs. Joli. J'ai eu une journée de congé pour travailler. Alors qu'est-ce que ça donnerait les contes pour enfants revus par Emmanuel Macron? Ce serait spécial. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire le petit chaperon communiste. Et oui, il est rouge, hein. Il était une fois, dans un royaume enchanté avec des licornes partout, au sens start-up du terme, le petit chaperon communiste qui va voir sa grand-mère. Mes grand-mères a reçu la visite du loup de Wall Street, qui a fait une fusion-acquisition de 100% des parts de la grand-mère vers son estomac. Pauvre petit chaperon rouge, à qui va-t-il vendre son beurre? C'est de l'humour le chypre, hein. C'est de l'humour 100% le chypre. Heureusement, le chasseur de tête vient le recruter et le petit chaperon rouge se fait de la grosse galette. Et oui. Alors après, il nous lirait Blanche-Neige, cette histoire bizarre avec le prince qui embrasse Blanche-Neige alors qu'elle est inconsciente. C'est curieux, c'est un prince. Déjà, c'est un chef d'État qui fait ça. Vous imaginez, Amélie, vous êtes dans le coma et puis vous sentez un truc mouillé qui vous fouille dans la bouche. Vous ouvrez les yeux et il y a Emmanuel Macron qui vous roule une pelle.
Je mets un coup de coude.
Bah,
voilà.
Tu sors du coma très vite, en tout cas. Charles, je reviens à vous. Parce que je sais que la soirée n'a pas été facile, mais j'ai de quoi vous consoler. Vous savez qu'on a les meilleurs auditeurs du monde. Eh ben, j'ai joué à Orthez et une de nos auditrices, Dominique, adore la matinale. Elle a offert des cadeaux pour toute la petite famille.
Il
y a un panier par personne. C'est Dominique qui régale. Donc, il y a un panier avec du pâté, de la garbure, du piment d'Espelette et une bouteille chacun. Et ben voilà, c'est ça les auditeurs des RMC. Dominique.
Merci. Et ben merci Dominique.
Merci.
Voilà.
Oh là là. C'est les meilleurs du monde. Nos auditeurs, c'est la Ligue des Champions. C'est comme le PSG, mais en mieux. Merci à tous.
Il y a du pâté, Manu.
Il y a plein de trucs.
Oh là là.
Bisous à elle. Bonne interview, Bruno Le Maire.
Et on l'embrasse très fort. En effet, il est 8h26 et dans un instant. Et dans un instant, mon invité, c'est Bruno Le Maire. Je vais lui offrir, tiens. Qu'est-ce qu'il y a là, un peu du pâté basse.
Oh, oh bah non, il en a tout le temps.
Il est 8h26. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h30 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Bruno Malherbe.
Vous êtes le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Bah dis donc, ça fait 3 mois que je vous attends, que je vous invitais régulièrement, que vous aviez toujours une bonne excuse. Vous venez enfin...
Je travaille, vous savez.
Ouais, c'est peut-être parce qu'il y a des bonnes nouvelles surtout, non?
Non, c'est parce que je travaille, que les bonnes nouvelles, elles tombent pas du ciel. Les bonnes nouvelles, elles viennent du travail qui a été fait par le gouvernement, la majorité, le président de la République... Donc oui, nous sommes pour la 5e année consécutive la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe.
C'est le dernier baromètre qui est tombé ce matin.
Et je pense qu'au bout de 5 fois, on peut reconnaître que ce n'est plus le hasard. C'est le résultat de la politique de l'offre qui a été menée par le gouvernement depuis 7 ans et que nous continuerons à maintenir parce qu'elle donne des résultats très concrets. C'est 40 000 emplois partout dans les territoires, partout dans les régions pour nos compatriotes. C'est des usines qui ouvrent, des usines qui s'agrandissent. C'est des perspectives de prospérité pour tous nos compatriotes. C'est ça que veut dire ce baromètre. Ça veut dire du travail et de l'activité pour tous les Français sur tout le territoire. Et c'est le résultat de notre politique économique.
Et puisqu'on est sur les bonnes nouvelles, on va quand même en profiter. Il y a eu l'agence de notation Moody's. Son verdict était attendu et surtout redouté. Finalement, la note de la France n'a pas été dégradée. Il y a la croissance du premier trimestre qui n'est finalement pas si mauvaise puisque l'on gagne 0,2%. En plus donc de cette information sur le fait que la France est donc restée le pays d'Europe qui attire le plus d'investisseurs étrangers. Globalement, vous vous dites que peut-être qu'on repart dans la bonne direction ?
Mais j'ai jamais douté que nous étions dans la bonne direction et que notre politique économique était la bonne, la politique de soutien aux salariés, valorisation du travail, de soutien aux entreprises. Et oui, la croissance est là, 0,2 au premier trimestre. Ceux qui sont insincères, c'est les prévisionnistes qui ont dit qu'il n'y aurait pas de croissance. On accuse le gouvernement d'insincérité. Mais c'est le gouvernement
qui était... D'optimisme excessif, sans doute.
Oui, mais on est là pour être optimiste et volontariste, pas pour jeter des sacs de sang sur la tête des Français, comme beaucoup le font matin, midi et soir, parce que c'est leur fonds de commerce électoral. Ce décadentisme permanent, cette idée que les Français n'y arrivent pas, alors qu'ils réussissent remarquablement bien. Nous avions dit, en 2023, il y aura 1 point de croissance. On a fait 0,9. C'est le gouvernement qui était le plus sincère. Je dis depuis des semaines, sous... une volée de critiques et de bois verts, que nous aurons de la croissance, que nous aurons une année 2024 qui sera solide. Et certains prévisionnistes diraient que ce sera 0,5 au maximum. On a déjà 0,5.
Donc, vous maintenez votre prévision d'1% de croissance pour 2024.
Notre prévision de croissance, dont la crédibilité vient d'être confortée par ce chiffre de l'INSEE, 0,2. Je ne dis pas que c'est suffisant, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire mieux. Je dis juste que la France est dans la bonne direction, que son économie est solide et qu'il serait bon surtout de changer d'état d'esprit. Que ce pessimisme permanent, je vois tous ceux qui avaient déjà le sourire aux lèvres en se disant Moody's et Fitch vont dégrader la note. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de se réjouir sur les malheurs du pays ? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer radicalement d'état d'esprit ? Avoir un état d'esprit optimiste, volontariste. Oui, Moody's et Fitch ont maintenu la note de la France. Pourquoi ? Parce qu'ils croient dans la crédibilité de la stratégie de rétablissement des finances publiques du pays et parce qu'ils croient dans la puissance de l'économie française.
Il reste d'ailleurs une troisième agence de notation qui doit donner son verdict d'ici un mois. Standard & Poor's, vous êtes à peu près aussi optimiste ?
Nous verrons, mais c'est une fois encore pas... uniquement une question d'optimisme, c'est du travail, c'est de la volonté. Enfin, ces chiffres de croissance, 0,2, une croissance qui a été maintenue en 23, pas de récession, une croissance en 24 qui est solide et qui sera encore plus solide en 25 et en 26. Ces emplois qui ont été créés, ce classement de la France comme nation la plus attractive, tout ça, c'est le fruit de tout le travail des salariés, des chefs d'entreprise, des patrons de PME, des patrons de TPE, des... commerçants, des artisans. Moi, je veux leur tirer mon chapeau ce matin et leur dire, vous avez bien raison, contre l'état d'esprit qui est un état d'esprit sombre,
de continuer à faire preuve de volonté. Vous avez l'air de dire que face à vous, il y aurait tous les pessimistes, voire même les pessimistes un peu Gargamel qui se réjouissent du fait que ça arrive.
De manière, il suffit d'allumer sa télévision, de consulter ses réseaux sociaux. Donc là, c'est le pire. Non, absolument pas. J'accuse jamais les journalistes. Jamais. C'est pas ma pratique démocratique. Mais quand j'écoute la France Insoumise, quand j'écoute le Rassemblement National, quand j'écoute certaines oppositions, ils n'ont que la critique à la bouche. Pas contre moi, ça c'est le jeu démocratique, contre les Français. Quand on dit qu'il va y avoir une récession, c'est contre le travail des Français qu'on s'exprime. Quand on fait preuve de trop de pessimisme, qu'on n'arrête pas de parler de décadentisme, c'était mieux avant. Alors, on n'est pas dans la bonne direction, ça va mal se passer. On joue avec les peurs des Français.
Moi, je veux bien, mais Bruno Le Maire, il y a un moment où vous avez quand même tiré le signal d'alarme vous-même de manière très solennelle, un soir à 20h.
Mais sur les finances publiques, bien sûr.
Il manque de l'argent, il faut trouver en urgence 10 milliards. Puis vous-même, vous êtes revenu disant finalement, il va peut-être même falloir 10 milliards de plus. Et puis votre ministre du budget qui dit peut-être 20 milliards l'an prochain. Le président de la Cour des comptes qui dit il va falloir 50 milliards. Enfin, moi, je veux bien, enfin, ceux qui sont peut-être un peu négatifs aujourd'hui.
Non, ne confondez pas deux choses très différentes. Il y a deux façons de faire de la politique.
On comprend qu'on soit
inquiet quand on
vous entend.
On peut faire de la politique avec le sens des responsabilités ou en jouant avec les peurs des Français. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le débat politique, beaucoup trop de responsables politiques qui sont irresponsables en le faisant jouent sur la peur des Français, sur la peur de déclassement, sur la peur de relégation. Alors que nous sortons d'une des crises économiques les plus graves que nous ayons connues depuis un siècle, le Covid, que nous sortons de la crise inflationniste la plus grave depuis les années 70, et que la France s'en sort remarquablement bien grâce au travail, une fois encore, des Français, je pense que ça mérite d'être salué. Moi, ma responsabilité des ministres des Finances, c'est effectivement de dire, écoutez, là, il y a eu une difficulté sur les recettes en 2023, elles ont été moins bonnes que prévues, on corrige. C'est pas jouer avec les peurs, c'est faire preuve de sens des responsabilités.
Et on va rentrer dans le détail, il y a beaucoup de questions à vous poser. D'abord sur effectivement ces économies. Je n'y suis plus très bien, c'est-à-dire vous aviez dit 10 milliards, vous avez redit 10 milliards. Est-ce qu'aujourd'hui on cherche 20 milliards pour 2024? Mes comptes sont bons?
On a déjà trouvé 10 milliards d'euros, c'est le décret que nous avons signé le 21 février avec le Premier ministre. Puis il faut trouver 10 milliards d'euros supplémentaires, nous y travaillons avec le ministre des Comptes publics, et là les comptes sont bons.
Alors attendez, vous avez dit, on a déjà trouvé 10 milliards. Dans ces 10 milliards, si je me souviens bien, il y en avait une partie qui était que vous demandez à chacun des ministères de faire des économies. Quand je regarde ce qui s'est passé au ministère de l'Éducation nationale hier, vous avez demandé à tous les ministères donc de faire des économies, et au ministère de l'Éducation de faire aux alentours de 700 millions. J'ai bon ?
Oui, tout à fait.
Le ministère de l'Éducation a donc regardé dans ce qui lui coûte et a demandé au recteur d'académie, de supprimer un tiers des heures supplémentaires des professeurs pour économiser tout de suite 100 millions d'euros. Tollé, reculade, c'est abandonné.
Mais,
donc quand vous dites on a trouvé les sous, bah en fait non. C'est-à-dire quand on va en bas de la ligne, ils ne sont pas trouvés. Vous avez dit on arrête, mais...
Contrairement à ce que j'entends trop souvent, Bercy ne décide pas de tout. Le ministère de l'Économie et des Finances laisse la liberté totale à chaque ministre de décider où ils font les économies.
Mais là, ils ne les trouvent pas.
Qui est rendu avec le Premier ministre sur le montant
quand
global
d'économies. Quand ils tentent de faire des économies, ça ne passe pas.
On a déjà mis en place les 10 premiers milliards. On a, par exemple, réduit l'aide publique au développement. On a dit, voilà, les temps sont durs. On ne peut pas aider autant qu'on le souhaiterait les pays qui sont aujourd'hui les plus pauvres de la planète. Donc, on va économiser 800 millions d'euros sur l'aide publique au développement. Et ainsi de suite, pour arriver aux 10 milliards d'euros d'économies.
Donc vous faites confiance. Maintenant, en gros, vous dites ça, je m'en lave les mains. Moi, je leur ai demandé de faire des économies. Maintenant, à eux de se débrouiller.
Mais c'est à eux de discuter avec nous et de dire, voilà où nous voulons faire les économies.
Mais là,
les
c'est 100 millions, par exemple, puisqu'ils ne les font pas.
Comme la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, je lui fais une confiance totale, ont la responsabilité de trouver les économies là où ils estiment que c'est le plus juste. Ben non, c'est pas théorique, c'est très pratique. Parce que c'est
eux qui sont en contact. Là, les 100 millions, c'est très pratique. C'est-à-dire que c'était un tiers des heures supplémentaires
de leurs administrations et qui disent, écoutez, là, c'est possible. Là, c'est plus difficile. Ils ont une marge de manœuvre. Un ministre, il a la responsabilité de son administration, de son budget. On lui dit, votre budget est réduit. À vous de trouver les économies nécessaires.
Donc il va falloir qu'ils trouvent ces 100 millions ailleurs. 20 milliards d'euros donc d'économies de différence avec le budget que vous aviez prévu. Et pourtant, pas de rectificatif budgétaire. Ça passe.
Le rectificatif budgétaire, c'est des décisions que nous prenons actuellement.
C'est bizarre quand même.
Vous voulez dire pas de loi de finances rectificative?
Politiquement, c'est quand même bizarre de pas retourner. Vous avez discuté d'un budget avec les députés. Vous faites finalement 20 milliards de différence par rapport à ce budget qu'ils ont signé, qui finalement a été adopté. et vous retournez pas devant l'Assemblée nationale.
Mais nous avons la possibilité de le faire par décret. Donc nous le faisons par décret. Le choix a été pris, la décision a été prise par le président de la République de faire ces économies par voie réglementaire. Est-ce que pour autant, ça réduit le débat parlementaire ?
On comprend quand même en creux, Bruno Le Maire, que
voilà, le président a décidé, poliment, vous dites, c'est sa décision.
Vous savez, comme ministre des Finances, la seule chose qui m'intéresse,
sans doute pas la décision que vous auriez
prise. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'au bout du compte, on ait rétabli les comptes de la nation. On soit sous les 3% de déficit public en 2027 et que nous accélérions le désendettement de la France. Et est-ce qu'il y a un débat ? Bien sûr qu'il y a un débat. Lundi, j'étais à l'Assemblée nationale, nous avons eu un débat avec les forces d'opposition. Mardi, j'étais au Sénat, il y a eu un débat avec les forces d'opposition. Et d'ailleurs, plutôt que de s'écharper sur le véhicule par lequel on va faire ces économies, j'ai tendu la main. Et je tends la main à nouveau.
On va préciser les choses.
Pour que tout le monde comprenne bien.
En réalité, ce qui se joue là, c'est la question effectivement de la sincérité ou de l'insincérité d'un budget ou de la rectification d'un budget a posteriori.
J'entends très bien un peu de manière.
Quand les choses sont différentes.
Sur la sincérité.
Si vous venez devant l'Assemblée nationale avec votre budget rectificatif, avec cette loi de finances rectificative, nous déposerons une motion de censure qui sera vraisemblablement signé par les autres oppositions. Et donc le gouvernement tombe.
Ce qui, vous l'avouerez, n'est pas la meilleure incitation à faire une loi de finances rectificative. Si on vous dit, si vous déposez une loi de finances rectificative,
Vous êtes dérobé.
On renverse le gouvernement, c'est pas une incitation à aller dans cette direction-là. Mais peu importe. La seule chose qui compte pour la nation, l'intérêt supérieur
si
de la nation,
vous seriez dérobé, vous,
c'est le rétablissement. Écoutez, moi, je ne me dérobe jamais.
Oui, c'est ça. Vous auriez été. Non, mais j'entends bien.
C'est pas du tout mon genre de beauté.
Vous auriez été à l'Assemblée. Vous auriez proposé ce budget rectificatif.
C'est que les comptes soient rétablis, qu'ils soient rétablis dans un dialogue démocratique avec les forces d'opposition. Je leur ai tendu la main lundi à l'Assemblée, mardi au Sénat, et je continue à leur tendre la main en leur disant l'intérêt supérieur de la nation pour protéger les Français demain, s'il y a un nouveau Covid, s'il y a une crise géopolitique, c'est que les comptes soient rétablis et qu'on ait les réserves financières pour protéger les Français. Travaillons ensemble. Je le redis ce matin à votre micro, à toutes les forces d'opposition, travaillons ensemble à ce rétablissement des comptes.
Parmi les économies et les pistes pour faire encore des économies, pour réduire les dépenses, il y a l'idée de réformer l'assurance chômage. Et dans le même temps, on a la SNCF, entreprise dont le capital est à 100% détenu par l'État, qui accepte dans une négociation avec ses salariés de revenir, en gros, sur les effets de la réforme des retraites. Vous avez bataillé sur cette réforme de retraite. Vous nous avez dit à nous tous, Français, qu'il fallait faire des efforts, qu'il fallait travailler plus longtemps, que le compte n'y était pas. Et pendant ce temps-là, à la SNCF, ils ont obtenu de partir 2 ans avant l'âge légal, 18 mois avant l'âge légal précisément, avec 75% de leur salaire. Vous trouvez ça normal ?
C'est pour ça que cet accord n'est pas satisfaisant à mes yeux et qu'il y a eu un dysfonctionnement. J'ai en partie, avec d'autres, la tutelle de la SNCF, notamment la tutelle financière. Un accord est signé qui engage effectivement les équilibres de la réforme des retraites, les équilibres financiers de la SNCF. Je n'ai pas été averti. Alors je reconnais bien volontiers que c'est au président directeur général de la SNCF de gérer les relations avec les organisations syndicales. Mais le ministre de tutelle, un des ministres de tutelle, doit être tenu au courant. J'ai donc convoqué le président directeur général de la SNCF pour qu'il me rende des comptes sur cet accord, qui donne un sentiment de deux poids, deux mesures, qui est très provoquant pour beaucoup de nos compatriotes qui travaillent dur et qui ont accepté la réforme des retraites et qui voient que cette réforme des retraites est nécessaire précisément pour financer notre régime de retraite par répartition, par solidarité. Donc j'ai convoqué M. Farandou et je tiens à ce qu'il m'explique comment est-ce qu'il finance cet accord qu'il a conclu avec les syndicats sans, une fois encore, que nous soyons avertis.
Quand ?
Dans les tout prochains jours.
Et s'il n'a pas une explication qui vous paraît suffisamment à la hauteur ?
J'attends une explication convaincante et je veux régler un dysfonctionnement.
Mais est-ce que ça veut dire, Bruno Le Maire, que vous pourriez, en tant que justement tutelle de la SNCF, dire bah, cet accord, on n'est pas d'accord ?
Je vais écouter les explications du président directeur général de la SNCF, mais la démocratie, pour moi, c'est la transparence. Je ne vais pas vous dire, j'ai été informé, c'est pas mal. Voilà. Le ministre de tutelle, ministres de tutelle, n'a pas été informé. Il apprend cet accord. Cet accord ne me paraît pas satisfaisant. Il pose des problèmes financiers. Je rappelle que nous avons trouvé 35 milliards d'euros il y a quelques années, lorsque la SNCF avait besoin de rééquilibrer ses comptes. Bah, je suis en droit de demander des comptes aussi.
Mais est-ce que, je vous repose la question, est-ce que vous avez les moyens, Bruno Le Maire, de revenir sur cet accord ?
Je tiens à connaître les moyens de financement de cet accord. le président directeur général de la SNCF doit nous rendre des comptes.
Total Energy pourrait battre pavillon américain. Le patron de Total a laissé entendre qu'il pourrait faire de Wall Street sa place de cotation principale. Le journal Les Échos parle même d'une distance croissante entre les champions du CAC 40 et l'Hexagone. Total, j'ai quand même plusieurs questions à vous poser, parce qu'on sent bien qu'il y a eu une forme de bras de fer quand même parfois, de soutien hein, souvent, mais aussi de bras de fer, quand vous avez estimé que Total n'avait pas joué le jeu. Et là, ils envisagent ce projet, partir quand même pour une cotation américaine. D'abord, est-ce que vous prenez ce projet au sérieux ?
Bien sûr, je pense ce projet au sérieux.
Est-ce que vous le redoutez ?
Je suis pas là pour redouter, je suis là pour faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Parce que je pense que c'est une décision qui est grave. Nous avons besoin de Total. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de dire à quel point c'était un atout pour la France d'avoir une grande compagnie pétrolière comme Total, avec, par exemple, lorsqu'il y a des prix de l'énergie qui explosent, des prix des carburants qui explosent, un géant de la distribution et de la distribution de pétrole, d'essence ou de diesel, qui dit « je vais plafonner à moins de 2 euros le prix du carburant à la pompe ». Bah, si vous n'avez pas Total, vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est important de garder Total, c'est important de garder le siège social de Total en France, et c'est important que la cotation principale de Total reste en France.
Ils vous entendent ? Ils vous écoutent ? C'est de la
En fait, ce
que je voudrais comprendre, c'est
j'ai eu l'occasion,
entre vous, une forme presque de provoque, de chantage. Au fond, c'est un peu une manière de vous dire « écoutez, lâchez-moi ».
Non, c'est pas comme ça que doivent fonctionner les relations entre le ministre des Finances.
Je veux bien croire que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner, mais est-ce que c'est pas comme ça que ça fonctionne?
Et un dirigeant d'une entreprise aussi importante que Total, ce qui doit nous guider, comme pour les finances publiques, comme pour l'économie, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Est-ce que l'intérêt supérieur de la nation est de garder le siège social de Total en France et la cotation principale de Total en France? Oui. Et donc je me battrai pour ça parce que c'est l'intérêt supérieur des Français. Alors, de quoi est-ce que Total a besoin ? Total a besoin de financement. Je pense que la meilleure façon de répondre aux besoins de Total, c'est de mettre en place, c'est pourquoi nous nous battons avec le président de la République, l'union des marchés de capitaux.
Mais est-ce que c'est pas une manière de vous dire n'envisagez même pas la taxe sur les super-profits ?
Non, mais Total me dit mais la taxation sur les super-profits, en l'espèce, c'est une taxation sur les rachats d'actions que nous envisageons de mettre en place. Je pense qu'on peut le dissocier de cette question de la cotation et de la présence de Total en France avec son siège social. Total me dit, nous avons un problème de financement. Nous n'arrivons pas à trouver de financement. Ma réponse, c'est, nous allons mettre en place une union des marchés de capitaux pour que vous puissiez lever des sommes beaucoup plus importantes à l'échelle européenne pour vos activités, notamment vos activités dans la transition énergétique. Nous ferons cette union des marchés de capitaux. Vous pourrez lever l'argent nécessaire, donc vous n'avez plus de raison d'aller vous faire coter à New York.
Il y a un des sous-traitants de Stellantis, MA France, qui fabrique des châssis et des cabines qui risquent le dépôt de bilan. Stellantis, dont le patron est quand même rémunéré 36,5 millions d'euros, on l'a appris la semaine dernière, qui délocalise donc cet équipementier en Turquie, parce que ce serait moins cher là-bas. Est-ce que vous trouvez ça normal ?
Je réunirai toute l'industrie automobile, toute la filière automobile lundi, avec le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Cette industrie, elle traverse une phase qui est difficile, la transition du véhicule thermique au véhicule électrique. Une transition comme ça, il en arrive une fois par siècle. Je veux accompagner la filière automobile comme je le fais depuis maintenant 7 ans. Et pour accompagner la filière automobile, il faut que chacun joue le jeu. Et que les grands donneurs d'ordre, que ce soit Stellantis et Renault, aient une attention beaucoup plus forte à leurs sous-traitants et la situation de leurs sous-traitants. Ça fera partie des discussions que
vous estimez donc qu'ils ne doivent pas lâcher MA France.
J'estime que les donneurs d'ordre, Stellantis et Renault, dans cette période de transition qui est très brutale, très rapide, où la compétition est féroce, notamment avec la Chine, doivent faire attention à leurs sous-traitants. Ça a toujours été ma ligne de politique économique, que ce soit sur l'aéronautique, sur l'énergie, sur l'industrie automobile, les grands doit faire attention aux petits.
Monsieur Bolloré, tiens, dit aussi qu'il va lancer peut-être une nouvelle usine une méga factory de batteries.
Je ne vais pas vous annoncer toutes les bonnes nouvelles ce matin. J'en garde encore quelques-unes pour les semaines à venir.
Mais celle-là, ça veut dire, je comprends bien qu'elle est dans votre manche.
Vous verrez.
Elle est dans votre manche.
Vous verrez, il y a des présidents de région qui sont très impliqués, le président de la région Bretagne, le président de la région Grand Est, et je salue leur implication parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble depuis des mois sur ce projet, donc
essayez de montrer un petit peu de temps. Vous pouvez le dire.
Laissez-nous encore un peu de temps.
Oui, ok. Donc la super nouvelle est dans la Manche, mais vous attendez un peu pour la donner plus officiellement. Tiens, Atos, qui est chargé d'une partie de la cybersécurité des Jeux Olympiques notamment, Atos en très grande difficulté, vous avez annoncé que vous proposiez de racheter les activités les plus sensibles notamment sur la question du nucléaire ou sur la question en effet de la cybersécurité. On en est où ?
J'ai déposé une lettre d'intention le week-end dernier, ce qui veut dire que nous protégerons, comme je l'ai toujours indiqué, toutes les activités stratégiques d'Atos, que ce soit sur la cybersécurité, sur les supercalculateurs ou dans le domaine nucléaire. Et je tiens à dire, face aux critiques, nous avons fait ça au bon moment. Certains disaient, il fallait agir beaucoup plus tôt. Enfin, agir beaucoup plus tôt, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État éponge les dettes à la place des créanciers ou des actionnaires. Enfin, très franchement, le contribuable, si on était intervenu beaucoup plus tôt, il serait fondé à dire, mais monsieur le maire, pourquoi est-ce que vous épongez les dettes à la place des banques, des créanciers ou des actionnaires ? J'interviens au bon moment, quand c'est nécessaire, pour protéger, sans dilapider l'argent du contribuable.
Bruno Le Maire, vous avez entendu les mots qui ont été lancés à l'endroit de Raphaël Glucksmann dans les cortèges des manifestations du 1er mai. Casse-toi, Palestine vivra, PS, salaud. Comment vous voyez ce moment politique ?
C'est pathétique. C'est pathétique de la part de tous ceux qui prononcent ces mots. J'apporte évidemment mon soutien à Raphaël Glucksmann dans ce qu'il a vécu il y a quelques heures. Cette violence n'a pas sa place dans le débat public. Mais dans le fond, ça dévoile aussi le vrai visage de la France insoumise. Cet événement, comme d'autres depuis des semaines et des mois, la France insoumise, c'est à la fois la France intolérante et la France islamiste. Voilà ce qu'est devenu la France insoumise. Un parti intolérant qui, lorsqu'il voit qu'il perd pied, devient brutal, violent. On l'avait déjà vu dans l'attitude de M. Mélenchon il y a quelques années. Et la France insoumise, c'est aussi la France islamiste. Parce qu'il récupère la colère sur Gaza, l'inquiétude sur Gaza qui peut être légitime. On est tous bouleversés par ce qui se passe à Gaza. Pour défendre des positions politiques de séparatisme, de valorisation de l'islam le plus radical, au détriment d'ailleurs de beaucoup de nos compatriotes musulmans qui voient ça avec beaucoup d'effroi parce qu'ils savent que ça va se retourner contre eux. Donc tout cela est condamnable, tout cela doit être combattu avec la plus grande fermeté et le plus grand calme.
Il y aura tout à l'heure à 10h une réunion à l'école de sciences politiques de Paris, à l'Institut d'école sciences politiques de Paris, à 10h avec à la fois les professeurs, la direction, les étudiants. Tous les étudiants sont invités, des différentes obédiences, si je puis me permettre, puisque désormais chacun est un peu dans sa case. Qu'est-ce que vous en attendez ? Est-ce que vous en espérez quelque chose ? Le regard de Gabriel Attal sur la situation de blocage de la semaine dernière était très dur. Est-ce que vous aussi, vous estimez que ce qui se passe à Sciences Po est néfaste ?
Une école, c'est fait pour étudier et débattre. C'est pas fait pour avoir des confrontations violentes comme celles qu'on voit sur les campus américains. Qu'est-ce qu'on veut ? Que la violence qu'on voit sur les campus américains arrive en France ? Ou est-ce qu'on veut que la France reste une nation de lumière, de science, de savoir, d'études, de débat, de tolérance ? C'est ça qui se joue actuellement. Donc tous ceux qui croient, et qui sont l'immense majorité des étudiants, évidemment, dans le débat, dans le savoir, dans l'échange d'idées, dans la confrontation des idées, doivent respecter les idées des autres, admettre le débat et refuser toute forme de violence, toute forme d'intimidation, toute forme de blocus. L'université, c'est libre. C'est pas fait pour être bloqué.
D'ailleurs, ça s'appelle l'Institut libre d'études politiques. Bruno Le Maire, merci d'être venu répondre à mes questions. Vous êtes le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.